2, RFI, il est 6h à Paris, 5h en temps universel et 7h à Kiev.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à tous.
L'Ukraine accepte la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours.
Et Kiev se dit prêt à la paix après des discussions avec les États-Unis qui ont rétabli dans la foulée l'aide militaire à l'Ukraine. Donald Trump annonce qu'il va parler avec Vladimir Poutine. La balle est désormais dans le camp russe. On verra quel est l'intérêt pour la Russie d'accepter un tel cessez-le-feu dans un instant. Dans ce journal aussi, de nouveaux droits de douane américains, 25% sur tout la et l'aluminium qui entre aux États-Unis depuis une heure maintenant. L'avocat français de Boualem Sansal qui va saisir aujourd'hui les Nations Unies pour dénoncer la détention arbitraire de son client. Nous serons aussi dans ce journal en Argentine où le procès de professionnels de santé s'est ouvert hier pour manquement ayant pu contribuer à la mort de Diego Maradona. Et puis football sur les terrains et l'exploit du Paris Saint-Germain hier. Les Parisiens qui se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant Liverpool à Anfield.
L'Ukraine est prête pour la paix.
Le message hier de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a donc accepté le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Annonce faite à l'issue de discussions avec des représentants américains en Arabie Saoudite. L'Ukraine qui renvoie désormais la balle au camp russe. La Russie doit montrer si elle est prête à mettre fin à la guerre, a déclaré Volodymyr Zelensky. Donald Trump lui affirme qu'il va parler avec Vladimir Poutine, sans doute cette semaine. Les lignes bougent donc. Après 3 ans de guerre, Moscou n'exclut pas des contacts avec des représentants des États-Unis pendant les prochains jours sur l'intérêt des Russes à accepter un tel cessez-le-feu. Écoutez le chercheur et spécialiste de l'Ukraine, Ulrich Buna.
La Russie, on le voit, hein, essaye de rétablir au maximum les relations avec Washington et donc effectivement se positionner dans un refus complet d'un cessez-le-feu, c'est pas quelque chose qui serait vraiment constructif pour les Russes. Deuxième point, on sait que dans cette guerre, les deux protagonistes, alors effectivement les Ukrainiens un peu plus que les Russes, mais les deux protagonistes sont quand même essoufflés par 3 ans de guerre. Donc faire une pause en fait pour les Russes, ce serait pas forcément malvenu. Déjà pour essayer de se reconstituer un peu, on va dire ses forces militaires. Et c'est d'autant plus vrai que en fait un cessez-le-feu de 30 jours ne réglerait rien sur le fond et donc finalement les Russes via un cessez-le-feu pourraient acter le fait que tous les territoires qu'ils occupent sont de facto le leur et sans engager la suite, c'est-à-dire que l'objectif qui reste grosso modo que l'Ukraine soit sans garantie de sécurité, soit le plus faible possible pour qu'éventuellement les Russes reprennent le conflit. Dans ce cadre-là, avoir un cessez-le-feu ne serait pas forcément complètement défavorable à Moscou. Ça permettrait de faire plaisir à Donald Trump qui aura un accord rapide. Et finalement, ça n'obérerait rien d'éventuelles négociations futures sur lesquelles les Russes pourraient tout à fait faire traîner les choses.
Ulrich Buna, joint par Arim Lipold. Côté réaction, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, ont tous les deux salué une avancée positive qui peut être un pas vers une paix durable, et ce alors que les bombardements se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Bombardements russes qui ont fait 6 morts hier dans la région de Donetsk. Quelle que soit l'issue de ces discussions, certains pays européens ont acté un renforcement de leur arsenal militaire ces derniers mois, ainsi qu'une meilleure formation de leurs citoyens. C'est le cas en Pologne, où après avoir annoncé vendredi vouloir rétablir une forme de service militaire, le Premier ministre Donald Tusk a commencé à en dévoiler les contours. Il envisage ainsi de le rendre accessible à 100 000 personnes par an à Varsovie. Adrien Sarla.
L'objectif est colossal, mais pas inatteignable, selon Donald Tusk.
D'ici 2027, nous donnerons à 100 000 personnes la possibilité de suivre une formation militaire chaque année sur la base du volontariat. Je suis convaincu qu'on ne manque pas de volontaires. Alors notre devoir est de faire en sorte que chaque personne intéressée puisse y avoir accès.
Le Premier ministre a précisé les contours de cette formation qui devrait être accessible à tous les Polonais et Polonaises de 18 à 60 ans sur la base du volontariat. L'entraînement, lui, ne sera pas seulement centré sur le maniement des armes, mais permettra, selon Donald Tusk, de mettre ses compétences, quelles qu'elles soient, au service de l'armée.
Comme vous le savez, la guerre en Ukraine a montré à quel point ce conflit exigeait une large gamme d'experts, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Et ici, en cas de menace sur place, ce dont on a surtout besoin, c'est de spécialistes de la défense civile.
Pour former cette armée de réservistes, comme il l'appelle, Donald Tusk compte faire appel à des vétérans reconvertis en instructeurs pour mettre à profit leur expérience. Aujourd'hui, 55% des Polonais se disent favorables à la conscription, de quoi faciliter la tâche du gouvernement qui a un nouvel objectif en tête, mettre sur pied une armée de 500 000 hommes. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Ils sont entrés en vigueur il y a un peu plus d'une heure.
Et de nouveaux droits de douane américains, 25% sur l'acier et l'aluminium qui entrent aux États-Unis. Nouvelle étape dans la guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires. Donald Trump a promis une taxe sans exception et sans exemption. Depuis sa prise de fonction fin janvier, il souffle le chaud et le froid entre annonces, exceptions et reports. Alors, où en est-on précisément sur ces droits de douane ? Précision de Justine Fontaine.
Acte 1, début février, Donald Trump met pour la première fois ses menaces à exécution. C'est Pékin qui est visé, avec 10% de droits de douane sur tous les produits chinois. La Maison-Blanche double la mise un mois plus tard. Plusieurs fois, le président américain menace l'Europe, mais c'est avec ses voisins et alliés historiques, le Canada et le Mexique, qu'il a le plus varié. La semaine dernière, le 4 mars, après un long chantage, il impose 25% de droits de douane sur tout ce qui vient de ces deux pays. Puis en 48 heures, il concède une série d'exceptions, de reports ou encore de réductions temporaires pour un mois sur de très nombreux produits dont les voitures. Dernier round à ce stade, 25% sur l'acier et l'aluminium du monde entier à partir de ce mercredi. Reste toute une liste de menaces en suspens. La principale, celle d'imposer à partir du 2 avril des droits de douane réciproques, miroirs de ceux appliqués à ce jour par tous ses partenaires commerciaux à travers le monde.
Justine Fontaine, l'ombre de Donald Trump planait sur le scrutin au Groenland. L'opposition de centre-droit a remporté les élections législatives d'hier, scrutin marqué par une poussée des nationalistes qui réclament que l'île convoitée par Donald Trump accède rapidement à l'indépendance. C'est ce qu'annonce la chaîne publique KNR. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
On en vient, Jeanne, à cette annonce choc de la présidence angolaise concernant le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Et annonce après une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et angolais João Lourenço à Luanda. Pas de déclaration à la sortie de cette rencontre, mais après, sur les réseaux sociaux, la présidence angolaise explique qu'elle va, je cite, établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours. Du côté de Kinshasa, on assure prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise. C'est ce que précise Tina Salama, la porte-parole de la présidence.
L'avocat français de Boualem Sansal va saisir aujourd'hui les Nations Unies.
Et pour dénoncer la détention arbitraire de son client, c'est ce qu'annonce Maître François Imray lors d'une conférence de presse chez l'éditeur Gallimard. L'avocat a dit être sans nouvelles de son client depuis 15 jours. L'écrivain franco-algérien est détenu en Algérie depuis la mi-novembre. Il est poursuivi pour des déclarations faites en France à un média d'extrême droite et considéré comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Lors de cette conférence de presse, l'écrivain Kamel Daoud, récent prix Goncourt, s'est félicité, lui, d'un début de mobilisation à Berlin, en Allemagne, autour de la situation de Boualem Sansal.
Cela nous sort du bilatéral où on essaie d'enfermer le cas de Boualem Sansal et cela rapatrie un peu les enjeux à leur vraie place. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-française parce que la France est un pays de culture. Boualem Sansal, c'est une affaire algéro-algérienne parce qu'il s'agit aussi d'un Algérien et que dans ce pays-là, on s'est battu pour être libre, non pas pour mettre des écrivains en prison. Boualem Sansal, c'est une affaire franco-algérienne parce que, qu'on le veuille ou pas, nous partageons maintenant des morts, des enfants, des migrants, des voyageurs et des binationaux. Donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'étranger à nous deux. C'est quelqu'un à la fois qui est nous et qui fait le lien entre les deux pays. Boualem Sansal, c'est un homme qui a 80 ans, qui croupit en prison, sans procès, sans inculpation, sans droit de visite, sans avocat. Et il incarne, c'est le corps de tous les écrivains algériens aujourd'hui, qui se taisent par peur, qui se taisent parfois par prudence, qui sont persécutés, qui sont exilés. Donc Boualem Sansal, c'est un peu tout cela. Et si nous l'oublions, un jour ça nous atteindra même dans ce pays-là. On est fatigué de cette histoire-là, on est fatigué de la persécution, on est fatigué de tout cela. Nous avons besoin de libérer Boualem Sansal et de libérer l'Algérie.
Kamel Daoud au micro de Pierre Firsion. Direction l'Argentine à présent, 4 ans après la disparition de Diego Maradona, le procès de 7 professionnels de santé s'est ouvert hier pour manquement ayant pu contribuer au décès de l'idole du football en 2020. Hier, le procureur a dénoncé un assassinat, une convalescence devenue selon lui le théâtre de l'horreur. À Buenos Aires, Théo Conscience.
Así murió Maradona.
Voilà comment est mort Maradona. Le procureur Patricio Ferrari montre au tribunal une photo de la star argentine sur son lit de mort, le ventre démesurément gonflé. Pour le magistrat, l'équipe soignante de Diego Maradona a consciemment fait preuve d'une négligence fatale.
Le 25 novembre 2020, vers midi, ils ont délibérément et cruellement décidé de le laisser mourir.
L'avocat des filles de Maradona, Fernando Burlando, va plus loin. Sans donner de nom, il accuse une personne de l'entourage de l'idole argentine d'avoir organisé, je cite, le crime parfait.
Diego Armando Maradona a été assassiné. Quelqu'un qui continue de se tapir dans l'ombre a réuni une équipe de professionnels de santé pour le tuer d'une manière silencieuse mais néanmoins cruelle.
Les accusés, eux, se retranchent derrière leur spécialité et soulignent que Diego Maradona refusait de prendre ses médicaments. L'avocat de la psychiatre Agustina Kosachov rappelle qu'il souffrait d'insuffisance rénale et cardiaque après une vie d'excès.
Étant donné que la cause de la mort n'a pas pu être déterminée avec certitude, aucun des accusés ne peut se voir attribuer une quelconque responsabilité pénale.
Alors Maradona a-t-il été assassiné? Était-il seulement soignable? Plus de 120 témoins vont se relayer à la barre pour tenter de répondre à ces questions. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Quand un ouvrier prend au mot ses patrons voyous,
il décide d'aller travailler en Inde où son usine est délocalisée. Voilà le point de départ de Délocaliser, film français des frères Ali et Redouane Bouguerba, deux réalisateurs de cette comédie sociale qui se joue des différences culturelles entre l'Inde et la France. Sophie Torlotin.
Le conseil d'administration a pris la décision de délocaliser notre site en Inde.
Pas question pour Redouane de renoncer à son rêve de devenir contremaître. Il décide donc d'aller s'installer à Calcutta, mais découvre qu'il a été berné par son patron.
Je suis contremaître, il me donne 200 euros.
Oh, vous savez le code du travail en Inde.
Pour se venger, Redouane va inciter les ouvriers indiens à faire grève.
On va lui sortir la plus grosse spécialité française.
La baguette ?
La grève.
Les deux frères réalisateurs ont tourné en grande partie en Inde, grand pays de cinéma, Ali Bouguerba.
Tout le monde nous attendait au tournant en pensant qu'on allait caricaturer les Indiens, mais en fait non, on a essayé de restituer tout ce qu'on avait vu et celui dont on se moque le plus, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire l'occidental qui arrive dans ce pays avec ses gros sabots, en pensant tout connaître et pouvoir profiter de la situation, et en fait tout se retourne contre lui.
C'est le premier grand rôle au cinéma pour Redouane Bouguerba. Après avoir rempli les salles, notamment le Vélodrome de Marseille l'an dernier, l'humoriste se réjouit d'avoir réalisé un film pour toutes les générations.
Mon spectacle, pour moi, il est déconseillé au moins de 21 ans. Et là, on arrive avec un film tout public où on peut aller le voir de 3 à 90 ans. De faire un film qui touche énormément de gens et qui est un feel-good movie, nous, on a réussi notre pari.
Délocalisé des frères Bouguerba, c'est en salle à partir d'aujourd'hui en France. Enfin, le Paris Saint-Germain, du football évidemment, avec la qualification du PSG hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire à exploit sur la pelouse des Reds de Liverpool à l'issue des tirs au but. Tous les résultats et le récit de cette soirée de football, ce sera dans le journal des sports dans une demi-heure.
Avec Baptiste Leduc, merci Jeanne Bartoli. Il est 6h13 à Paris, le début de notre matinée ensemble. Ravi de vous retrouver pour trois nouvelles heures d'infos, de chroniques, de reportages, d'invités au programme ce matin. L'Ukraine, va-t-il y avoir un cessez-le-feu de 30 jours dans le pays? La balle est aujourd'hui dans le camp russe. À 8h, nous ferons un point avec notre spécialiste défense et puis nous appellerons Kiev à 7h. Également au programme ce mercredi, l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Illustration ce matin à Dunkerque, dans le nord de la France. Ce sera notre dossier à 8h. Illustration aussi dans l'un des fiefs de la métallurgie en Espagne, les Asturies, une guerre commerciale, des remous venus d'Amérique qui n'effraient pas le patron de Lego, le géant danois du jouet. C'est ce que nous racontera Otilia Ferré à 8h20. Ce matin, on va aussi parler de la situation en RDC, mais également de la Syrie avec notre invité à 7h20, Monseigneur Mourad, archevêque de Homs. Autre invité sur RFI dans une demi-heure, Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères. Il revient avec nous sur ces accusations de mauvais traitement qui seraient infligées par Nouakchott aux migrants sénégalais. Et puis on va parler foot aussi ce matin. La victoire du PSG hier, vous l'entendiez. Les attentes de Lille aujourd'hui. Également ce grand rendez-vous au Caire. Ce mercredi, l'Assemblée générale élective de la CAF. Ce sera notre dossier à 7h30. Et nous partons en Chine d'abord, où la question de l'obésité est devenue un sujet de préoccupation majeure, notamment lors des deux sessions, grand rendez-vous politique annuel dans le pays. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Envoyée spéciale permanente des RFI en Chine en direct avec nous, Cléa. Le problème est pris très au sérieux en Chine. Pour tenter de faire face, le ministère chinois de la Santé a présenté une série de mesures. On va y revenir, mais d'abord Cléa, donnez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'ampleur de ce problème qui ne fait que s'aggraver.
Eh bien, vous le disiez, l'obésité n'est pas un phénomène nouveau en Chine, mais les projections sont particulièrement alarmantes. D'ici 2030, 65,3% de la population adulte pourrait être touchée par le surpoids ou l'obésité. Et ce n'est pas seulement un problème qui concerne les adultes. Environ 19% des jeunes âgés de 6 à 17 ans et plus de 10% des enfants de moins de 6 ans sont également touchés. Alors, c'est une tendance qui s'explique par des changements profonds dans les modes de vie et l'alimentation de ces dernières décennies, avec d'un côté l'augmentation de la consommation de fast-food et de l'autre un peu plus de sédentarité. Alors il existe déjà des camps de perte de poids qui ont été mis en place pour les personnes en surpoids et ces programmes associent sport et diététique pour les aider à retrouver de bonnes habitudes et éviter des complications à long terme.
Et alors quelles sont, Cléa, les mesures mises en place par la Chine pour tenter d'inverser la courbe ?
Alors Pékin mise avant tout sur l'éducation et la prévention. Première grande initiative, l'intégration de l'éducation physique dans le programme scolaire. Alors depuis janvier 2025, les professeurs de sport ont le même statut et la même rémunération que ceux qui ont des matières principales comme les mathématiques ou l'anglais. Et 2 heures d'activité physique par jour sont imposées aux élèves. Et pour pallier le manque d'enseignants, le gouvernement prévoit de recruter d'anciens athlètes et des vétérans de l'armée, notamment dans les zones rurales. Un autre levier d'action, c'est l'alimentation dans les cantines scolaires. Alors, de nouvelles directives imposent aux écoles de réduire les quantités de sel, de sucre et de matières grasses dans les repas. Et enfin, le ministère recommande également des contrôles réguliers du poids des élèves et la présence de nutritionnistes à l'école pour sensibiliser les plus jeunes à une alimentation équilibrée.
Mais au-delà de l'aspect santé, ce problème a aussi des implications économiques et démographiques pour la Chine.
Oui, alors tout d'abord, vous le disiez, parce que l'obésité est un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore certains cancers. Aujourd'hui, l'obésité est classée parmi les 6 premières causes de décès et d'invalidité en Chine. Ensuite, il y a effectivement un impact économique. Pourquoi ? Parce qu'une population en moins bonne santé représente un coût important pour le système médical et la baisse de productivité liée aux maladies associées à l'obésité pourrait devenir un frein au développement du pays. Et enfin, vous le disiez, la dimension démographique est aussi un enjeu crucial. Pourquoi aussi ? Parce qu'avec une jeunesse de plus en plus touchée par ses problèmes de poids, eh bien la Chine craint une détérioration globale de la santé des générations futures, avec des répercussions à long terme sur l'ensemble de la société.
Cléa Broadhurst en ligne avec nous de Pékin. Merci à vous Cléa, c'était notre rendez-vous La Une en Asie sur RFI. Et à la une également ce mercredi 12 mars 2025, la Syrie et ses milliers de déplacés réfugiés dans la base aérienne russe de Maymim sur la côte syrienne suite aux violences meurtrières de ces derniers jours dans l'ouest du pays. Les plus sanglantes depuis la chute de Bachar al-Assad, violences entre forces de sécurité syriennes, leurs alliés pour traquer les partisans du président syrien déchu. L'observatoire syrien des droits de l'homme a comptabilisé 1225 civils tués, principalement des Alaouites, minorités dont était issu le clan Assad. Aujourd'hui, l'opération est terminée, dit le pouvoir. Une enquête sur ces violences est en cours, mais un climat de peur s'est réinstallé en Syrie. Les minorités craignent pour leur vie, Alaouites, mais aussi chrétiens. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin, vous allez en parler justement avec votre invité, Monseigneur Jacques Mourad, archevêque de Homs, Hama et Nabek pour les Syriaques catholiques.
Oui, Monseigneur Jacques Mourad s'inquiète-t-il, redoute évidemment de voir son pays sombrer dans les violences entre communautés. Et pourtant, aussitôt après la chute de Bachar al-Assad, il y a 3 mois, il espérait, il se disait optimiste, heureux de voir sentir le parfum de la liberté. Alors aujourd'hui, le désir de vengeance a-t-il pris le dessus ? Est-ce que le climat a changé ? Comment observe-t-il ce qui vient de se passer ? Quel avenir pour les minorités dans la nouvelle Syrie ? Monseigneur Mourad a un point de vue singulier à nous faire partager. Lui, qui avait été l'otage des djihadistes de l'État islamique en 2015, a-t-il confiance dans les nouvelles autorités de Syrie qui appellent à la paix civile ? Il est en ligne avec nous tout à l'heure.
Tout à l'heure à 6h20 en universel. Merci Arnaud. Et la Syrie, on en parle aussi bien sûr dans tous nos journaux ce matin. En France, ils étaient plusieurs centaines à manifester hier à Paris. 1100 selon la préfecture de police, 2500 selon le syndicat SNESUP FSU. Et les mobilisations ont eu lieu aussi dans d'autres grandes villes, des profs, des étudiants rassemblés pour dénoncer l'austérité et les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur. Mobilisation qui a eu lieu au moment où se tenait une réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, organe consultatif qui émet des avis sur les politiques universitaires. Laurence Théo.
Le temps gris de ce mardi, sans la moindre éclaircie, est à l'image de ce qui se passe dans les universités françaises. Solvay est bibliothécaire universitaire. Les coupes budgétaires drastiques qui frappent l'enseignement supérieur et la recherche publique la concernent aussi.
Si on a moins de personnel, c'est plus compliqué d'ouvrir. On a éventuellement dans certains endroits moins d'argent pour acheter des ressources pour les étudiants. Donc c'est un gros souci. Et au niveau des formations, en fait, là on commence à voir, il y a des formations qui ferment, en fait, tout bêtement. Il y avait une formation X ou Y dans telle université, il y avait 100 places, il n'y en a plus que 50. Ou alors il y avait 50 places, il n'y en a plus du tout.
Main dans les poches, regard franc, Camille François est enseignante en sociologie à Paris 8. Le budget de son laboratoire va être amputé de plus de la moitié. Pour lui, la situation est grave parce qu'elle menace l'avenir des générations futures.
C'est important d'avoir une population qui est qualifiée, qui va à l'université, qui enseigne dans de bonnes conditions. Donc on préempte l'avenir et puis elle est grave la situation et elle est aussi très injuste parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'université publique, c'est ce qui accueille dans une large majorité les enfants d'origine populaire ou des petites classes moyennes qui ont de bons résultats au lycée et qui veulent prolonger leurs études supérieures. Et cette casse en fait de l'université publique, elle sert aussi à venir grossir le marché des formations privées qui sont de moins bonne qualité bien souvent, qui aboutissent à ce que les étudiants doivent s'endetter pour les suivre. Et donc on continue en fait cette casse voilà, matérielle et aussi symbolique en termes d'image, de réputation de l'université.
Sur la pancarte, écrit au gros feutre, suppression des filières, étudiants en colère. Victor est doctorant en histoire médiévale. Il explique que ce sont les sciences humaines qui sont dévalorisées.
On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ce discrédit porté à la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, et le manque de moyens. J'ai une collègue qui disait que c'est une entreprise de destruction de l'enseignement supérieur public français.
On retrouve Camille François. Il rappelle que la recherche publique comprend bien sûr les sciences fondamentales, mais aussi les sciences humaines et sociales. Pour lui, il ne faut pas séparer ces deux grandes familles.
On ne peut plus aujourd'hui travailler sur l'environnement, des questions centrales, cruciales comme l'urgence climatique, sans intégrer dans les équipes de recherche des sciences sociales, des sociologues, des anthropologues, des historiens, des historiennes, aussi des psychologues, parce que ce sont des phénomènes globaux qui touchent tous les domaines de la vie et de l'existence et qui donc font appel à toutes les disciplines. Et donc, la plupart des sciences fonctionnent main dans la main et elles œuvrent en tout cas pour essayer de défendre une connaissance gratuite et utile à la société, notamment face aux dangers qui la menacent comme l'urgence climatique.
Pour réfléchir à la suite à donner à ce mouvement de contestation, des assemblées générales dans les universités auront lieu un peu partout en France le 13 mars.
Reportage de Laurence Théo.
RFI Matin.
6h23 à Paris, notre question d'environnement sur RFI. Et ce matin, on parle des termites, pour la plupart inoffensifs. On les connaît surtout pour leur appétit dévorant, pour le bois ou les livres, ce qui peut nous causer bien des désagréments. L'Afrique héberge 39% des 2600 espèces de termites dans le monde, des animaux très sensibles au changement climatique. Et ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour la planète. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Alors on va voir pourquoi c'est une mauvaise nouvelle. La chaleur, en tout cas, c'est une sacrée aubaine pour les termites.
Oui, des chercheurs ont comparé l'activité des termites dans plus de 130 endroits du globe et ils ont conclu que les termites rongent le bois 7 fois plus vite lorsqu'il fait plus chaud de 10 degrés d'une zone à l'autre. Alors pourquoi un tel appétit quand le thermomètre grimpe? Pour l'instant, ils n'ont que des hypothèses. Les termites ont peut-être plus souvent l'occasion de se reproduire et donc il y a plus de termites à nourrir. Ou alors peut-être que les enzymes et les bactéries qui décomposent le bois dans le ventre des termites fonctionnent mieux quand il fait chaud. Quoi qu'il en soit, les termites deviennent voraces avec la hausse des températures. Et si aujourd'hui, ils vivent surtout dans les zones tropicales avec le réchauffement climatique, ils vont aussi pouvoir coloniser de nouvelles terres. Selon les chercheurs, aucun pays ne sera épargné. Canada, Argentine, Finlande ou Iran, en passant par la Namibie et même le Groenland.
Et Jeanne, cette suractivité dans de plus en plus de régions du monde, eh bien cela fait peser un nouveau risque pour le climat.
Et oui, car les termites produisent des gaz à effet de serre en digérant le bois, qui est composé de carbone, explique Amy Zahn, écologue spécialiste des termites.
Ce qui est drôle avec les termites, c'est que comme nous, ils ont des microbes dans l'intestin qui les aident à digérer. Certains de ces microbes peuvent casser les molécules carbonées du bois et libérer du CO2. Mais la plupart sont aussi capables de libérer du CH4, du méthane. Et donc, comme les vaches, les termites pètent du méthane. Le méthane est 30 fois plus réchauffant que le CO2, même si on le trouve en bien plus petite quantité dans l'atmosphère. Et s'il y a de plus en plus de termites avec l'augmentation des températures, alors on pourrait avoir plus d'émissions de méthane.
Les termites sont d'ailleurs reconnues comme l'une des quatre plus grandes sources naturelles de méthane.
Mais alors, est-ce que les termites sont une menace sérieuse pour le climat ?
Pour l'instant, la contribution des pets de termites au réchauffement climatique est quand même assez incertaine. C'est compliqué d'obtenir des données vu le nombre d'espèces différentes de termites avec chacune leur spécificité. Et puis, les termites ne décomposent pas non plus tout le carbone du bois sous forme de gaz. Une grande partie reste stockée dans leur ventre. Et quand ils pètent du méthane, ce méthane reste souvent piégé dans les termitières où se sont développées des bactéries capables de l'utiliser pour se développer. Oui, des bactéries qui mangent des pets de termites en somme. Quoi qu'il en soit, la production de méthane par les termites est quand même très atténuée naturellement. Et elle reste de toute façon très, très inférieure à ce que nous produisons, nous les hommes, en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon.
Mais quand même, hein. Merci Jeanne Richard, c'était la question d'environnement sur RFI. Allez, tout de suite, un petit passage par notre playlist du mois, la playlist RFI, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ce matin. Le titre « Mare by Subir » par Joao Selva.
Poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar. Com você é importante. Tanta história pra contar. Lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar. Estrada aberta do presente.
Agora chego.
Guiados pelo sol.
Nunca se separa.
Eu e você.
Agora vem brilhar.
Juntos na luz do sol.
Nunca se separa.
Tão simplesmente. Colo vou morar. Para sempre vou morar, meu bem. Nessa energia solar. Brilho que ilumina a gente.
Agora chego.
Guiados pelo sol.
Nunca se separa.
Eu e você.
Se separa
tão simplesmente.
Joao Selva et ce titre issu de son nouvel album Onda, Mare by Subir, c'est sur notre playlist. Ce mois-ci, belle journée à vous sur RFI dans une minute le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
dépression, exaltation, comment le trouble bipolaire agit-il sur l'humeur ?
Demain,
la sexologue de l'émission Noël Caillarcy vous répond en direct.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.